Au sommaire de ce journal, l'Iran ne tolérera pas l'ingérence en matière d'intégrité territoriale et de souveraineté nationale, déclaration du chef de la diplomatie iranienne. Israël, blocage et manifestations avant le vote final sur le projet de réforme controversée judiciaire du premier ministre extrémiste Benjamin Netanyahou. Et puis les prix du blé bondissent après le retrait de la Russie de l'accord céréalier avec l'Ukraine en mer Noire. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran a vivement critiqué une déclaration de la Russie et du Conseil de coopération du Golfe Persique concernant la souveraineté de l'Iran sur trois îles au sud du pays. Lors d'une conférence de presse avec son homologue omanais à Téhéran, Hossein Amir Abdollahian a souligné que l'Iran ne transigera jamais sur sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance. Il a déclaré que Téhéran ne tolérerait pas de telles ingérences de la part de la Russie ou de tout autre parti. L'Iran a déjà convoqué l'ambassadeur de Russie sur la question, mais le haut diplomate iranien a déclaré que les explications fournies par les responsables russes étaient insuffisantes. Une récente déclaration conjointe de certains États arabes du Golfe Persique et de la Russie a appelé à des pourparlers sur la souveraineté sur les trois îles du Golfe Persique d'Abu Moussa et des grands et petits tombes. Téhéran a rejeté à plusieurs reprises les revendications des Émirats arabes unis sur les îles, affirmant qu'elles faisaient historiquement partie de l'Iran et le resteront. Toujours lors de la conférence de presse, Amir Abdollahian a également salué les relations irano-omanaises. Hossein Amir Abdollahian a déclaré que le volume des échanges entre l'Iran et Oman avait été multiplié par 2,5 au cours des deux dernières années. Il a également apprécié le rôle d'Oman dans la facilitation des pourparlers régionaux et la réduction des divergences. Amir Abdollahian a également remercié Mascate pour ses efforts visant à faciliter les négociations visant à lever les sanctions anti-iraniennes. Le ministre omanais des Affaires étrangères a pour sa part salué sa rencontre avec Amir Abdollahian et appelé au développement des liens économiques, commerciaux et culturels entre les deux pays. Il a ajouté que l'Iran et Oman étaient d'accord sur de nombreuses questions. Les États-Unis prévoient d'envoyer des avions de chasse et des moyens navals supplémentaires dans la région du Golfe Persique pour renforcer leur présence militaire dans la région, a déclaré le Pentagone. Cela intervient alors que l'Iran a mis en garde à plusieurs reprises contre la présence américaine dans cette zone névralgique. Lundi, la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a évoqué un certain nombre d'événements alarmants dans le détroit d'Ormuz, selon ses mots, au début du mois, avant de prétendre que le renforcement du dispositif militaire américain aurait pour but de faire face à l'Iran. Le 10 juillet, un commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, CGRI, a annoncé que les États-Unis avaient fait des tentatives non professionnelles et risquées pour empêcher la saisie d'un pétrolier étranger faisant de la contrebande de carburant iranien dans le Golfe Persique la semaine dernière, mais que cette instance a réussi à confisquer le navire en question. L'Iran a souligné qu'il considérait les navires militaires américains qui se cachent dans les eaux du Golfe Persique comme une menace pour sa sécurité et une source de tension et d'instabilité dans la région. Au cours des dernières années, la marine américaine a saisi à plusieurs reprises des pétroliers contrôlés par l'Iran et des cargaisons de pétrole en route vers d'autres pays, invoquant ses propres sanctions contre les exportations de pétrole de l'Iran. Lundi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a averti les États-Unis de s'abstenir de toute action provocatrice dans la région, en particulier à proximité des frontières iraniennes. Une femme scientifique iranienne nommée Fatemeh Farajidian a découvert un antidote définitif à l'empoisonnement causé par le phosphore d'aluminium connu publiquement sous le nom de comprimé de riz. Sa découverte révolutionnaire est actuellement au stade clinique. Elle représente un traitement définitif pour l'empoisonnement aigu causé par les pilules de riz. L'empoisonnement avec ces comprimés peut entraîner la mort ou des blessures graves. Jusqu'à présent, aucun antidote défini n'a été introduit pour le traitement spécifique de ce type d'empoisonnement. Cette dame iranienne est nommée parmi les 2% des scientifiques les plus cités au monde selon une liste publiée par l'Université de Stanford. Les protestations contre les réformes judiciaires controversées d'Israël sont devenues un spectacle régulier à Tel Aviv. Les manifestants sont une fois de plus descendus dans la rue pour montrer leur colère contre le plan poussé par le cabinet d'extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Des manifestants bloqués des autoroutes ont brièvement pris d'assaut la bourse de Tel Aviv mardi, alors que les députés se préparent à ratifier l'un des projets de loi judiciaire les plus contestés du Premier ministre extrémiste Benjamin Netanyahou avant les vacances parlementaires d'été. Les manifestants se sont rassemblés devant la bourse et le quartier général militaire de Tel Aviv. Selon la police, un certain nombre d'autoroutes sont fermées car les manifestants les ont bloquées. 17 manifestants ont été arrêtés. Des rassemblements hebdomadaires ont attiré des dizaines de milliers de personnes dans les rues. Les manifestants disent que la refonte vise à limiter l'indépendance judiciaire et ouvrira la voie à un régime plus autoritaire. De fréquentes manifestations ont secoué Israël depuis que le cabinet de Netanyahou a proposé la refonte en janvier. Les critiques disent que Netanyahou, qui est jugé dans des affaires de corruption, tente d'utiliser la réforme pour annuler d'éventuels jugements contre lui. La Russie a lancé de nouvelles frappes contre l'Ukraine, causant des dommages aux infrastructures de la ville portuaire d'Odessa sur la mer Noire. Le ministère russe de la Défense a dit avoir détruit à Odessa les sites utilisés par Kiev pour préparer l'attaque de lundi contre le pont de Crimée. Selon les responsables militaires ukrainiens, la Russie a attaqué la ville avec des missiles et des drones qui ont été abattus par la défense aérienne. Cependant, l'armée affirme que les débris des missiles abattus ont endommagé l'infrastructure du port et plusieurs maisons. Moscou a déclaré que les attaques étaient des représailles à l'attaque ukrainienne de lundi sur le pont de Crimée. Le Kremlin accuse Kiev d'utiliser des sites à Odessa à des fins de combat. Les terminaux maritimes d'Odessa sont la clé d'un accord céréalier signé en 2022 entre les deux pays. Lundi, Moscou a refusé de prolonger l'accord, arguant que certaines parties de l'accord concernant les exportations russes n'avaient pas été remplies. Enfin, les prix du blé flambent après que la Russie a annoncé sa sortie d'un accord historique qui permettait à l'Ukraine d'exporter des céréales via la mer Noire. Les contrats à terme sur le blé ont bondi de 3% tandis que les prix du maïs et du soya ont tous augmenté. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie ne renouvellerait pas le pacte qui a expiré lundi. Il a cependant ajouté que dès que les exigences de Moscou envisagées dans l'accord seraient remplies, il reviendrait immédiatement à l'accord. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev était prête à poursuivre ses exportations malgré la sortie de la Russie de l'accord. Pendant ce temps, les États-Unis ont exhorté Moscou à revenir sur sa décision. L'Union européenne a condamné la suspension de la Russie comme une décision cynique. En outre, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, regrette profondément la décision de la Russie. Guterres a également signalé la résiliation d'un pacte de l'ONU avec Moscou pour aider à faciliter les exportations agricoles et d'engrais de la Russie en échange de l'exportation sûre de céréales ukrainiennes. La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a qualifié l'accord de jeu à sens unique. L'accord négocié par la Turquie et les Nations Unies, signé en juillet 2022, visait à soulager une crise alimentaire mondiale. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. En France, la police fonctionne comme une mafia. Valentin Gendreau, 33 ans, est un journaliste indépendant. Depuis 2014, il s'est spécialisé dans l'infiltration. Gendreau a été sous couverture avec la police française pendant des mois. Là, il a découvert chez la police française des collègues violents et une culture du silence. Gendreau a passé des mois à faire des recherches sous couverture avec la police française. En 2020, il avait publié un livre d'enquête intitulé « Bulle » en allemand 2022. Récemment, un comité de l'ONU vient d'attester du racisme structurel dans la police française. Le comité a-t-il raison ? Le journal allemand Die Tageszeitung a interviewé le journaliste indépendant français à propos du comportement violent de la police en France. Un racisme structurel dans la police française existe-t-il vraiment ? Valentin Gendron répond. En tant qu'auxiliaire de police à Paris, je n'avais aucune connaissance des documents stratégiques et de l'organisation des services dirigeants, donc je ne peux rien dire sur un racisme structurel. Mais cela ne veut pas dire que la police n'a pas de problème de racisme. J'ai travaillé avec 32 policiers, 5 ou 6 d'entre eux étaient racistes et violents. Ces personnes ne devraient plus être des policiers dans un pays démocratique normal, mais ils le sont toujours. La police utilise le mot « bâtard » lorsqu'elle s'adresse à des enfants arabes ou noirs de plus de 13 ans. Les jeunes noirs sont contrôlés par la police, mais les jeunes blancs ne le sont pas. Le langage reflète-t-il le comportement et les attitudes de la police ? Pour répondre à cette question, Valentin Gendreau a dit au journal allemand « Dans un sens, oui. Chaque fois que j'ai été témoin des violences, elles ont toujours été dirigées contre des minorités, jamais contre des blancs ou des noirs en position sociale élevée qui portaient un costume et une cravate. » Le journaliste français estime que la police française fonctionne comme une mafia. La police française fonctionne comme une mafia. Personne ne parle, personne ne dénonce la situation. Il y a une culture du silence, pas de transparence. Alors les 5 ou 6 policiers violents restent avec la police. Et donc, il peut arriver qu'un policier tue un garçon de 17 ans comme Naël Merzouk. Dans une autre partie de cette interview, Valentin Gendreau a dit « Même si quelque chose de bien ou de mal se produit, les policiers font généralement preuve de solidarité avec leurs collègues. Je pense que c'est en partie parce que c'est un métier difficile et si vous dénoncez les violences policières, vous êtes un traître. » Il souligne qu'en Allemagne, on reproche souvent qu'il n'y a pas d'autorité d'enquête réellement indépendante et que c'est toujours la police qui enquête sur la police. Et c'est une partie du problème en France aussi. Le journaliste répond « Parvi ». En France aussi, les infractions font l'objet d'enquêtes internes. Il n'y a pas d'autorités indépendantes. Nous avons l'inspection générale de la police nationale en France. Nous l'appelons la police de la police. En Grande-Bretagne, c'est différent. En Angleterre et en Écosse, c'est autrement. Alors, peut-être que la police anglaise est plus propre que la française. Selon Valentin Gendreau, le ministre français de l'Intérieur, Gérard Darmanin, protège presque toujours la police. Même si un policier fait quelque chose de mal, comme tuer ou frapper quelqu'un, le ministre soutient toujours la police, a-t-il déploré. En ce qui concerne le taux élevé des cas de suicide parmi les policiers en France, Gendreau dit que ce taux est terriblement élevé. L'année dernière, il y en avait 46. Le policier représente le deuxième groupe professionnel sur la liste des suicides derrière les agriculteurs, a-t-il souligné. Valentin Gendreau a confirmé que les opérations de police impliquent souvent la violence.